Vous avez peut-être entendu ce matin dans l'émission de mon collègue Paul Arcand, il y avait des citoyens qui témoignaient du fait qu'ils avaient été embêtés par toutes sortes de stratagèmes pour les frauder par téléphone. Les fraudes téléphoniques, là, c'est une plaie depuis plusieurs mois. Les fraudes par Internet, bien sûr. En fait, en ce mois de mars, qui est le mois de la fraude, c'est l'occasion de parler de prévention. Même s'il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est un petit peu moins naïf par rapport aux fraudeurs qu'il y a 5 ans. Là, il paraît, selon un sondage qui est sorti il y a quelques jours, qu'il y a à peu près 60% des citoyens qui disent qu'ils font plus attention, ils prennent plus de précautions aujourd'hui qu'il y a 5 ans pour essayer de se parer aux ruses des escrocs. Il en reste pas moins qu'il y a le 3/4 des citoyens qui ont été sondés qui disent avoir reçu ne serait-ce que des messages vocaux ou via courriel qui tentaient de les frauder. Et parmi eux, le tiers ont effectivement été victimes de fraudeurs. Mais moi, sincèrement, ça m'a beaucoup parlé, ça, ce sondage-là, quand j'ai vu ça il y a quelques jours, parce que j'ai été moi-même, probablement comme beaucoup d'entre vous, là, victime de fraude téléphonique. On s'en était parlé, on a fait une couple de sujets là-dessus au cours des derniers mois. Mais ça, ils se tannent pas de nous appeler avec les pilins. C'est des numéros avec notre code régional, ce qui fait qu'on tombe dans le panneau. Et là, on le sait, faut pas répondre. Faut, dès qu'on entend une voix qui nous parle en mandarin ou dans un langage qu'on comprend pas, il faut raccrocher. Mais n'empêche que ça peut être assez pénible. Et là, cette semaine, je vous avoue, là, puis je vais vous parler de mon expérience personnelle, j'ai été fraudée 3 fois, mais là, en argent. Là, c'est quelqu'un, un groupe, je sais pas qui, puis je sais pas si mes invités vont pouvoir répondre à cette question. Puis j'aimerais ça que vous me disiez si ça vous est arrivé aussi, parce que je me dis, je peux pas être seule à avoir vécu ça. On a vidé mes cartes de points. Vous savez qu'il y a une couple d'années, là, d'ailleurs, j'ai remonté en 2017 à peu près, là, il y a eu ce genre de fraude massive via des cartes de points, des cartes de magasins, de pharmacie, des cartes aussi, la fameuse carte Inspire de la SAQ, des gens s'étaient fait voler leurs points. Là, cette semaine, moi, c'est via ma carte, une de mes cartes d'avion, aéroplan, entre autres, une carte de pharmacie. Et là, hier, c'est mon compte Netflix qui a été pris d'assaut complètement. Là. J'ai perdu le contrôle de mon Netflix. Il a fallu que je me réabonne et que j'annule le compte d'avant. Aujourd'hui, je vais devoir appeler ma carte de crédit pour dire d'annuler mon abonnement. Et ça a été pris d'assaut par quelqu'un qui s'est mis un avatar. Vous savez, la Casa del Papel, la fameuse image là, de Anonymous, là? Il s'est trouvé bien comique, il s'est mis ça comme avatar. Je me dis, avez-vous vécu ça vous aussi cette semaine, les amis? Rassurez-moi, dites-moi, je ne suis pas toute seule. 514-790-9850 de l'extérieur, 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez été victime de quelque fraude que ce soit, ne serait-ce que par appel téléphonique, dans les comptes en banque aussi, des vols d'identité. Ça, c'est effectivement devenu malheureusement très, très fréquent. On va en parler avec 2 experts en technologie. Sylvain Patry, que vous connaissez bien, d'habitude de notre émission. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Mme Maréchal.
Et également Éric Parent, PDG de Eva Technologies, qui est également chargé de cours à l'École polytechnique de Montréal. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Bon, je commence avec Sylvain. Le vol d'identité avec la PCU, ça a été très tendance, on l'a vu. Mais là, des vols de cartes de points, des vols via les téléphones cellulaires des gens, c'est le mois de la fraude, Sylvain Patry, mais ça n'a pas l'air de déranger les fraudeurs, ça.
Ben non, la pandémie a même été, je dirais... un accélérant là, au niveau du vol d'identité, étant donné qu'il y avait beaucoup d'argent disponible. Ce que les pirates informatiques recherchent à l'heure actuelle, c'est clair, c'est des avantages. Alors, lorsqu'ils vous hackent en bon français, ce qu'ils veulent, c'est d'accéder à vos comptes, que ce soit vos comptes en banque, que ce soit des comptes de points, de l'argent, ou utiliser votre identité pour pouvoir faire de l'argent, donc recevoir un chèque. Dans le cas de la PCU, évidemment, ça a été une manne, littéralement, pour des pirates informatiques qui se sont attribués une catégorie de personnes qui étaient un peu à l'abri là, des vols d'identité, les adolescents, entre autres. On a vu ça là, beaucoup dans les reportages télé durant les derniers mois où, effectivement, plusieurs adolescents, à l'heure actuelle, reçoivent des T4 de Revenu Canada qui mentionne et qui spécifie qu'ils ont collecté en bon mot anglais un
mais
peu,
ouais, non, mais
qu'ils ont reçu qu'ils ont reçu de la PCU alors que c'est pas vrai, donc leur identité a été compromise.
Écoute,
donc,
il peut y en avoir pour 12 000 $ là. C'est un vrai problème. Des auditeurs m'avaient écrit ça. Là. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit que des parents surtout là, qui me disaient hey, « mon jeune s'est fait voler son identité, ça te prend juste le numéro d'assurance sociale. » Où est-ce qu'ils prennent ça, Sylvain?
Ben, écoutez, il y a littéralement trois sources, là, évidemment, pour que vous puissiez vous faire voler votre identité. Un, soit les pirates informatiques ont accédé vos propres données à cause de vous, ou sans que vous le sachiez, c'est-à-dire sur votre ordinateur portable, sur votre ordinateur de maison, sur votre appareil mobile, que ce soit une tablette ou votre téléphone, parce qu'effectivement, vous vous êtes fait hameçonner, soit par texto, soit par courriel, ou encore votre réseau Wi-Fi à la maison là a été littéralement hacké. Donc, un pirate informatique a accédé à vos systèmes. Ça, c'est une source. La deuxième source, c'est une tierce partie. Alors, est-ce que c'est Desjardins?
Écoute, j'allais y venir, j'allais dire, c'est-tu à cause, parce qu'on a tous été, à un moment donné, clients de Desjardins dans notre vie, tu sais? Oui. J'ai même déjà travaillé là, moi, j'étais caissière à Desjardins. Fait qu'imagine, on a tous, écoute, ça a fraudé quasiment la moitié du Québec, cette fraude-là.
Ben oui, ça, on parle de 4 millions, au-dessus de 4 millions de personnes.
Et après deux ans, on en est où d'ailleurs? Nulle part, hein, je pense.
Ben là, on en est nulle part. Effectivement, il y a même personne qui a été emprisonnée là, puis qui a été poursuivie. Alors, à l'heure actuelle, les tierces parties sont à blâmer dans une grande majorité des cas. Donc, ça peut être une entreprise qui possède votre identité, donc vos données personnelles, ou ça pourrait être aussi un gouvernement. Ça peut être un gouvernement municipal, fédéral, provincial, ou encore même une commission scolaire, etc. Donc, il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Alors, ce qu'on peut contrôler, c'est ce qui nous appartient et les appareils sur lesquels on opère notre vie électronique, notre vie Internet en ce moment. Et ça, ben, il faut se protéger. Il faut essayer au moins de prendre les bonnes habitudes.
Ouais. Éric Parent, là-dessus, j'aimerais ça t'entendre de ton côté. Éric, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs par rapport à ça? Parce que, bon, tu dis, l'identité numérique, là, c'est vraiment important de régler ça d'un point de vue politique aussi, là.
C'est ça le vrai problème, en réalité. Parce qu'on essaye de colmater une fuite, mais c'est pas une fuite, c'est des centaines de fuites, même des fois qu'on ne connaît même pas. Alors, l'eau sort de tous les trous, mais on demande aux citoyens, faites attention. Mais faites attention, comment?
Comment?
Mais c'est ça le problème. Alors, c'est sûr qu'on peut être plus vigilant, faire attention, qu'on a au moins des bons mots de passe pour aller avec ce qu'on disait. Faut bloquer au moins le début, là, qu'ils viennent pas chercher nos informations dans nos systèmes à nous. Mm-hmm. Après ça, ça nous protège pas, évidemment, contre un Desjardins ou une Banque nationale ou n'importe quelle autre entreprise qui collecte des données en masse, qui aurait une fuite. Et puis, c'est là que l'identité numérique va jouer un rôle un jour quand on va l'avoir. Mais c'est ça que je trouve, moi, qui avance pas. Puis ça réglerait le problème. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de dire, faut pas que ton numéro de centre social fuit. Mais il fait longtemps qu'il est parti, là. Ce bateau-là, il est parti en croisière.
Ouais. On a Stéphane qui nous appelle. Bonjour, Stéphane.
Ça va bien?
Oui. C'est quoi votre histoire par rapport à tout ça, vous?
C'est une drôle d'anecdote. Moi, je travaille pour Revenu Québec. Puis quand je réponds au téléphone, je m'identifie comme étant de Revenu Québec. J'ai reçu un appel en anglais de quelqu'un soi-disant de la GRC qui disait que je devais de l'argent à Revenu Canada, puis qu'il fallait que j'aille absolument déposer de l'argent avec une carte genre Western Union.
Oh mon Dieu, ouais.
Puis dans la même semaine, on a au moins deux, trois collègues de travail. Mais tu sais, ils sont pas trop brillants. Là. Tu réponds Revenu Québec, puis ils se font passer pour Revenu Canada. C'est comme...
Oui, mais ça, c'est un message préenregistré. Oui, c'est ça, hein?
Mais j'avertis la population. Dès que c'est en anglais, là, en mandarin, c'est encore pire, là.
Ouais.
Si t'es francophone, que tu reçois un appel, admettons, de Revenu Québec ou de Revenu Canada en anglais, en partant, ça marche pas, là.
Mais non. Hey, vous avez été fraudé, vous autres aussi, chez Revenu Québec, là. Revenu Québec,
ouais.
Oui.
Mais c'est pas une vraie fraude qu'on a eue, nous autres. C'est que la fille, elle a mis du travail à la maison, puis elle n'a pas sécurisé l'information.
Oui, mais là...
Fait qu'on ose espérer que les 10 000 employés de Revenu Québec, on ne s'est pas fait frauder, mais on peut jamais être sûr avec les routeurs puis tout le kit, là, c'est comme... c'est fou.
Mais oui.
Fait dans la même année, Revenu Québec, Desjardins, écoute, ça arrête plus. Là, c'est comme... Il faut vraiment être prudent.
Oui, d'ailleurs, ben justement, Stéphane, quand vous appelez, là, qu'est-ce que le citoyen, évidemment, quand Revenu Québec nous appelle, on s'entend qu'on est toujours un petit peu sur le nerf, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas payé? On a-tu un bill qui hein? Intérêt, là, pénalité? Fait, comment savoir là, que c'est bel et bien quelqu'un de Revenu Québec qui nous appelle?
En partant, depuis qu'on est en télétravail, depuis quelques mois, si, admettons que je t'appelle, admettons, pour tes taxes, on va dire.
Mm-hmm.
Mais là, ça va être écrit gouvernement du Québec. Fait que déjà, c'est rassurant. Puis dans le doute, t'appelles. Puis au pire, tu fais le zéro pour parler avec la réceptionniste. Tu vraiment t'as peur, admettons.
Ouais.
Mais généralement, quand c'est pour collecter de l'argent puis que vous ne savez pas que vous devez de l'argent, c'est toujours mieux de demander un truc écrit.
Oui, hein,
parce c'est que ça. Du verbal, là, c'est pas assez. C'est sûr que si vous devez 2000 qu'on vous appelle pour vous collecter 2000, il n'y a pas de problème, là. Mm. Mais si vous vous dites, mais il me semble que je vois rien, là, jamais, absolument jamais rien
vérifié. Oui, c'est ça. Donc, vérifiez. Ben, merci, Stéphane, de prendre la peine de nous appeler. On a Gaston qui est avec nous. Bonjour, Gaston.
Oui, salut.
On vous écoute? Oui, on vous écoute.
Ouais, moi, je ne me suis pas fait un vol d'identité. Moi, c'était un vol d'un gars qui vendait des chiens, puis il marchait avec son email. Puis il me demandait 300$ pour réserver le chien. Puis là, un moment donné, on voulait l'avoir dans la même journée, mais là, lui, il était à Saint-Hyacinthe, il n'était pas capable d'aller le chercher. Fait qu'il m'a dit, alors, donne-moi, parce qu'il vendait le chien 600$. Fait que j'avais donné à moitié. Il dit, si tu le veux dans la même journée, mais donne-moi un autre 300. Paye-moi les complets, je vais te le livrer. Puis, ouais. Garde, j'ai jamais eu.
Mais ça,
Gars, il reste à en Californie, là, puis garde.
Ouais. Mais ça, déjà, en partant, un chien à ce prix-là, c'est douteux. Puis les gens qui vous demandent des suppléments, là, comme ça, il y avait tout douteux là-dedans, Gaston. Mais je sais que des fois, en temps de pandémie, on cherchait un ami à quatre pattes, là, mais c'est sûr que dans toute cette histoire, il y avait beaucoup de drapeaux rouges là, qui s'allumaient. Ça va vite avec ce sujet. Vous êtes tellement passionné par ça, comme moi. Parce que j'aimerais quand même qu'on essaye de voir s'il y a d'autres gens qui se sont fait voler des points sur des cartes cadeaux. Ça paraît pas, mais mon affaire, là, me suis fait voler pour 600$. La personne qui m'a hacké, là, elle a fait 600$ quand même. Ça va vite. Trois cartes... sur une carte aéroplan, là, ils ont échangé trois cartes de 100$, fait 300$ en carte Starbucks. Tu te dis, ben, comment ça se fait? Comment ça a pu? Mais il doit y avoir une façon pour eux de les utiliser tout de suite. Est-ce que c'est pour revente? Mes spécialistes vont peut-être m'éclairer là-dessus. Et sur les cartes de genre Famaprix, Optimum et tout ça, ça va vite aussi, là, quand on vous vide votre compte de points. Bref, je vous conseillerais, moi, en tout cas, je vais refaire toutes mes cartes. La carte Inspire, il y a peut-être du monde qui ont bien des points là-dessus. Là. Surveillez vos cartes de points, en tous les cas. Ça, c'est une bonne chose à faire. Une autre chose que sans doute mes invités vont nous dire, c'est changer de mot de passe régulièrement. Oh, mon Dieu, la gestion des mots de passe. Juste là-dessus, on pourrait faire 2 heures. On revient après la pause. Vous pouvez me joindre au 514-790-9850. 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Ah, c'est le mois de la prévention de la fraude, mais je vous le dis, là, ça n'a pas l'air de déranger vraiment les fraudeurs qui sont très actifs. Bonjour Stéphanie, vous avez une histoire, vous aussi?
Oui, c'est ça. J'ai été fraudée par... En fait, c'est une personne qui m'a téléphoné pour me dire que mon compte Vidéotron était en retard.
Mm-hmm.
Et donc là, j'ai raccroché. Et le lendemain, j'ai reçu un courriel me demandant de rentrer mon numéro de carte de crédit. Donc, ça avait l'air vraiment d'un courriel qui venait de Vidéotron.
Mm-hmm.
J'ai rentré mon numéro de carte de crédit, puis bien sûr, je m'en suis rendu compte quelques minutes après. Mais malheureusement, je n'ai pas été remboursée car la banque me dit que quand on rentre notre numéro de façon volontaire, il n'y a pas de remboursement possible.
Ah ouais. Ah, ben, attendez, je vais me tourner vers mes experts là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû recevoir ce genre de choses. J'en ai reçu, moi aussi, des faux courriels Vidéotron. Sylvain Patry va sans doute nous suggérer d'aller voir le HTTPS en haut, hein, pour aller voir, cliquons sur l'adresse de celui qui nous écrit pour voir si l'adresse est bel et bien, par exemple, dans le cas de Vidéotron ou d'un autre fournisseur de services, Sylvain, si c'est bel et bien une adresse qui a de l'allure, là, ou si autre chose.
De toute façon, Isabelle, regarde, c'est simple. La règle, que vous receviez un téléphone de vive voix, que vous receviez un courriel ou encore un petit texto sur votre téléphone là, qui vous demande de l'argent ou une action, ben, la prudence dit ne prenez pas action. C'est simple. Rappelez à ce moment-là, si quelqu'un vous appelle, vous dit vous avez un problème avec votre compte Vidéotron, vous dites parfait, monsieur. Je vais rappeler Vidéotron.
Exact.
Vous assurez de prendre une de vos factures, de regarder le numéro de téléphone du support à la clientèle de Vidéotron ou encore celui qui est sur le web, si vous allez à vidéotron.ca. Et là, vous appelez le numéro, vous dites, je viens de recevoir un appel. Est-ce que c'est effectivement valide ou pas? Et est-ce qu'il y a un problème avec mon compte?
Mm-hmm.
On fait la même chose avec un courriel. On ne répond pas à un courriel ou on ne clique pas, évidemment, sur un lien qui nous dit d'entrer à nouveau nos informations de carte de crédit parce que c'est de la fraude, littéralement. Alors, on met toujours à jour nos informations de carte de crédit sur le site sécurisé de l'entreprise avec laquelle on fait affaire.
Ouais.
On ne fait pas ça par le biais d'un courriel, ni d'un texto ou ni d'un appel téléphonique.
Oui, c'est ça. Éric Parent, sur l'histoire là, je ne sais pas si vous avez la réponse, Éric, là, mais Stéphanie qui dit qu'elle ne peut pas se faire rembourser parce que c'est comme si elle avait elle-même accepté de donner son numéro de carte. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment un vol. Est-ce que ça se tient, ça? Est-ce que c'est...
Ben, c'est quand même un vol. C'est quand même une
ben
fraude.
Oui, c'est
alors,
ça.
Je trouve ça surprenant que la banque
ouais, aussi
s'approche. Là, c'est peut-être le premier niveau de support. Moi, je rappellerais, je dirais, il y a telle transaction sur ma carte de crédit, c'est une fraude. Et puis, point final. Fait que là,
voilà.
Que le fournisseur, finalement, prouve que c'est vraiment vous. Parce qu'il y a un système de chargeback dans le monde des cartes de crédit. Et puis, si la personne qui a pris la carte de crédit, il a fallu qu'il s'en serve à quelque part. Là. Et puis, ce quelque part-là va être redevable de ce montant-là. S'il faut prouver que c'est vraiment vous qui avez autorisé cette transaction-là. Puis, si on fait ça sous le nom de Vidéotron, puis c'est pas Vidéotron,
ouais,
il devrait avoir une façon de se le faire créditer.
Oui, exactement. Bon, on parlait de comment, tout à l'heure, Sylvain nous disait, bon, il y a plusieurs sources là, qui fait bon, souvent une tierce personne. Évidemment, on sait aussi, on en a déjà discuté, il y a des gens qui peuvent passer, on a notre téléphone derrière notre poche. Évidemment, avec le 2 mètres, c'est peut-être plus difficile de nous approcher en ces temps de COVID, mais c'est facile. Est-ce que c'est aussi facile de voler nos informations? Moi, ce que je crains toujours, c'est que j'ai ma vie dans mon téléphone cellulaire, comme bien des gens qui nous écoutent. Tout est dedans. Fait, comment parer à un vol comme ça?
C'est facile dans les films, c'est pas si facile que ça. C'est pas à cause que quelqu'un passe à côté de vous qui va voler les données dans votre téléphone, là, loin de là. Les attaques, souvent, sont beaucoup plus simples que ça. C'est pas là qu'il s'est produit le problème, là, généralement. Puis pour se protéger, ben, un peu comme on vient de dire, c'est, faut jamais faire confiance à aucun message. Là. Si on rappelle toujours le numéro que nous, on connaît, on va déjà être en meilleure forme. La même chose avec Revenu Québec, Revenu Canada.
Oui, puis les fraudes de cartes de magasin, les cartes de points, là, ça arrive comment, ces affaires-là? Est-ce que c'est via un courriel?
Ben, ça, il y a plusieurs façons. Hein, ouais. Mais des fois, on pense que le programme de points est super merveilleux puis qu'il fonctionne bien. Mais la réalité, c'est que des fois, il était mal conçu. J'ai vu des programmes de fidélisation comme ça où les cartes sont séquentielles, les numéros de cartes sont en ordre. Fait que la carte 1000, la carte 1001, la carte 1002. Ça veut dire que si tu vas acheter une carte ou tu regardes la carte qui est sur le comptoir en vente, ben, les numéros qui sont plus là, tu peux les deviner, ils sont en séquence. Puis des fois, tu peux deviner plein de choses pour aller vider les comptes. Là. Il y a différentes attaques qui sont faites sur ces programmes de points-là. Les programmes de points, évidemment, évoluent puis essayent de se rendre plus sécuritaires également. Mais c'est pas parfait, ça non plus. Là.
Non, c'est tellement une perte de temps. Tu passes des heures avec eux après à essayer de leur dire parce qu'il faut qu'ils fassent enquête, bien sûr. Parce que ça, des points, c'est de l'argent. Là.
Oui, puis quand on appelle pour clamer, dire qu'on s'est fait voler nos points, bien évidemment, ça pourrait être un fraudeur également
ben,
qui fait la même stratégie. L'entreprise doit poser plein de questions, doit enquêter. Fait que ça nécessite beaucoup d'efforts des deux côtés. Là.
Ouais. On a Louise, justement, là, qui nous appelle au sujet de sa carte Inspire. Bonjour, Louise.
Bonjour, ça va bien, Isabelle?
Oui, oui, vous, avez-vous perdu des points?
Oui, oui. Ben moi, j'avais 125 $ sur ma carte. Alors là, moi, j'ai appelé la SAC. Ils m'ont remboursé 50 points seulement, donc ils m'ont remboursé seulement pour ça. Oui, oui, seulement. Hey, écoute, j'ai tellement débattu pour ça. Mais ce qui est arrivé par la suite, c'est que maintenant, ils demandent une preuve. Si tu as 20 $ et plus sur ta carte, maintenant, ils demandent une preuve d'identité. Ça, c'est à cause de mon dossier, j'imagine, parce qu'après ça, là, c'est...
Mais ils sont bien cheap de vous avoir.
Oui,
franchement.
Oui, puis écoute, je me suis débattue, je les rappelais, puis il n'y avait rien à faire, mais ils m'ont redonné 50 $.
Mais pourquoi? C'était quoi la justification qui vous remboursait seulement?
Ben, écoute, c'est comme s'il y avait deux cartes. C'est comme si moi, j'en avais une. Là, moi, j'accumulais des points.
Ouais.
Puis là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui allait au magasin avec une autre carte, puis qui prenait tous mes points à toutes les fois. Mais moi, je n'allais pas dans mon compte. Puis à un moment donné, je me disais, ben, je dois être à peu près, je dois en avoir beaucoup. Puis c'est là que j'ai réalisé que, ben non, j'en faisais, on me les prenait. Fait que là, je les ai appelés. Moi, j'avais tout compté à peu près combien de points, puis c'est ça. Ils ont remis pour 50 $ mais le 75 $ je l'ai perdu.
Eh boy. Avez-vous vos cartes de crédit dans votre téléphone?
Non, pas du tout.
Moi, j'ai
même pas de Facebook, j'ai même pas de téléphone intelligent. Non, moi, je suis bien peureuse là-dessus.
Puis voyez-vous, hein, vous êtes fait frauder pareil. Fait que, imaginez,
ben oui,
c'est
ben
ça.
Oui.
Hey, merci beaucoup, Louise.
Merci.
Au moins 50$. Ça te donne une coupe de bouteille de vin, mais quand même, c'est pénible. Bon, dans ce cas-ci, vous allez dire, oui, mais c'est des points, ça vous a rien coûté. Ben non, c'est pas vrai. Ça coûte de l'argent, ça représente de l'argent. C'est ça le but de ces fameuses cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, Sylvain et Éric, là, pour essayer de prévenir ce genre de fraude? Sylvain, d'abord.
Ben, premièrement, juste pour revenir sur les cartes de crédit, comme le disait mon collègue, là,
ouais.
Lorsque vous avez une transaction sur votre carte de crédit, que vous voulez contester, vous avez le droit de le faire auprès de Visa, Mastercard, votre institution financière, et vous faites ce qu'on appelle un chargeback.
Mm.
C'est important de le faire parce que ça signifie à Visa, Mastercard, qu'il y a quelqu'un, il y a un fraudeur qui prend littéralement de l'argent de carte de crédit et eux vont enquêter pour savoir si cette personne-là ou cette institution-là ou cette entreprise-là n'est pas une entreprise frauduleuse. Et ils vont littéralement barrer ce compte-là pour pas que ça arrive à d'autres personnes. Donc, ouais, très important de le faire. Maintenant, pour vous protéger, là, il y a des petites applications sur votre téléphone, des anti-spams au niveau de ce qu'on appelle les robocalls. Là. Ouais. Et ça, vous pouvez aller sur le App Store d'Apple et vous pouvez en télécharger. Il y a des configurations sur Internet très, très faciles là, pour vous empêcher de prendre des appels qui veulent...
Ça s'appelle comment, Sylvain? Ça s'appelle anti-robocall? Comment on appelle ça?
Oui, ça s'appelle spam, robocall blocker, robocaller, robocaller. Il y en a une tonne.
Okay.
Alors, sur votre téléphone, vous pouvez faire ça, soit Android ou Apple. Mm-hmm. Vous pouvez faire la même chose, activer vos spam filtre dans votre courriel, OK? Que ce soit votre Gmail, que ce soit votre Apple Mail, que ce soit iCloud, que ce soit votre Outlook ou Office ou Microsoft 365, vous avez et vous pouvez activer l'anti-spam pour être certain que vous regardiez pas des courriels qui sont frauduleux, carrément. Ouais. Et les filtres font très, 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 très bien. C'est vraiment pas un problème.
Ouais.
Donc, sur vos appareils mobiles et sur vos courriels, sur votre portable ou votre ordinateur de maison, activez ces applications-là et ces filtres-là anti-spam et ça va vous aider grandement à vous protéger, à faire une erreur.
Oui. Éric Parent, au niveau des mots de passe aussi, hein, c'est quoi le truc pour les mots de passe?
Ben, les mots de passe, évidemment, c'est d'essayer de ne pas toujours avoir le même, mais le vrai truc, c'est quasiment tous les services importants supportent un multiple facteur d'authentification.
Ah oui.
Ça veut dire que quand on se branche, notre mot de passe peut bien être pas bon, mais ça va quand même nous envoyer un message sur notre téléphone, un SMS, quelque chose qu'on doit fournir pour se brancher. Ces choses-là sont essentielles. Et puis, pour revenir sur le contexte des appels téléphoniques, quand on n'est pas sûr, là, on fait un raccroché. Parce que de toute façon, si Revenu Canada ou quelqu'un d'important nous court après, ils vont nous trouver et puis ils vont laisser un message. Puis là, on va avoir quelque chose à regarder. Là. S'ils ont laissé un message, ils ont laissé un numéro pour rappeler. On peut comparer le numéro avec le vrai numéro pour voir si c'était bon.
Donc, forcément, un deuxième facteur d'authentification, ça, c'est la base pour vous aujourd'hui?
Ah, c'est définitivement la base. Mais je pense que ce qui manque aussi, c'est que les fournisseurs sont pas encore très vigilants. Si on a notre carte de crédit dans notre téléphone, là, puis qu'on paye avec le téléphone, on reçoit automatiquement un message qui nous dit qu'une transaction vient de passer. Puis ça, c'est merveilleux. Mais on n'a pas encore ça sur toutes les cartes de crédit. Ça permettrait vraiment de limiter le dommage sur les cartes de crédit si on reçoit un SMS qui nous dit « Hey, tu viens juste d'acheter quelque chose de 125 $ à tel endroit ». Mais c'est pas tous les fournisseurs, si on veut, ou les.
Ben oui, puis justement, j'ai un cas, là. J'ai Pierre qui m'appelle sûrement sur une carte de crédit. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Banque nationale m'a appelé pour savoir mes dernières transactions que j'avais faites. Et puis, on validait que je m'étais fait frauder. Alors, c'était aux États-Unis, en US, une valeur approximative de 8 600 $. Alors, après avoir fait une vérification, on m'a remboursé. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que la valeur du US, entre le temps que je me suis fait frauder et qu'on me rembourse, il y a eu un manque de 80 quelques dollars que je n'ai jamais récupéré. Ils n'ont jamais voulu me donner. Et j'ai jamais su de où ça vient et comment ils ont fait me frauder. J'ai aucune idée. Mais le 84 $ on ne m'a jamais remboursé cette différence-là.
Mais oui, c'est ça. Fait qu'on y perd, hein? On y perd finalement.
Ben, ça n'a aucun sens. Parce que je ne suis pour rien, la carte de crédit appartient à la Banque nationale.
Oui. Mais c'est Mastercard. C'est ça. Savez-vous, je vais dire quelque chose. C'est une expérience personnelle et ça ne met en cause que moi, mais visiblement, vous sembliez avoir le. Et je pense qu'il y a des compagnies de cartes de crédit qui sont meilleures que d'autres dans le service à la clientèle en matière de fraude. Moi, j'ai vécu les deux avec et Visa et Mastercard. La première est pas mal meilleure que la deuxième pour régler les litiges. En tout cas, on s'ostine pas mal moins. J'ai remarqué qu'avec Mastercard, comme je vous dis, c'est mon expérience personnelle, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai moins aimé le service à la clientèle de Mastercard versus Visa. Et ça, Sylvain? Oui, est-ce qu'il...
Oui, excusez.
Oui, merci. Sylvain, vous êtes là?
Oui, je suis là.
On vous écoute?
Bon, on parle de fraude. Moi, j'ai un site web. Et puis, on parlait des fournisseurs de services de l'autre côté. Les fraudes, ça ne les dérange pas du tout. Là, j'ai présentement trois commandes que j'ai reçues avec une carte de crédit. Ils ont passé sur mon site avec le numéro de carte, date d'expiration. J'ai eu la sécurité de CVV. Il faut qu'ils rentrent les trois chiffres. Et j'ai reconnu le pattern parce que les fraudeurs, ils prennent des centres de location temporaire. Les fameuses offices que tu peux louer pour un mois, pour deux mois.
Oui, oui. Des pop-up stores, genre. Oui,
oui. Mm-hmm. Régis, pas le nommer, là. Je me suis retrouvé à Québec. Et là, présentement, j'ai une fraude à Scarborough. Et puis, on appelle les Moneris. Ils me disent qu'ils n'ont rien à faire. Eux, c'est des fournisseurs de services. Et les fraudes, ils ne s'en occupent pas. Il faut contacter la police.
Ah, avez-vous appelé la police?
J'en ai fait un. J'ai fait un rapport l'heure et demie à la ville de Québec. Savez-vous ce qui s'est passé?
Rien.
On entend les criquets encore.
Ah oui.
J'ai absolument rien qui s'est passé.
Mais vous savez, moi, les fraudes d'Internet comme ça, la police, elle ne fait pas le poids. Là. Ils sont débordés. Là. Qu'est-ce que vous voulez?
Non, mais là, présentement, les voleurs, ils ont écrit ce matin, ils attendent les colis. Ils ont écrit qu'ils attendaient parce que le tracking ne fonctionne pas. Ils sont encore locataires de la place. Ils sont encore là. Ils attendent les colis. La réceptionniste là-bas signe les colis, mais c'est la réceptionniste de tous les bureaux de locatifs.
Mon Dieu, c'est étonnant que la police ne puisse pas agir dans un cas comme ça, là, où c'est des vrais.
Non, puis les cartes de crédit, ils s'en foutent. J'ai appelé, je dis pas si, la carte est fraudée. Et je remplis les commandes pour un autre site également. Et j'ai vu sur l'autre site, il y avait deux commandes frauduleuses avec le même nom, la même carte de crédit, la même adresse de livraison. Puis nous, de notre côté, on a eu chargeback et on ne peut pas rien faire.
Merci. Exact. Merci Sylvain. Écoutez, on compatit beaucoup. Qu'est-ce que mes invités peuvent dire à Sylvain? Éric ou Éric Parent peut-être?
C'est quand on fait une transaction sur une carte de crédit, il faut s'assurer qu'on valide que l'adresse où qu'on va livrer le colis, c'est l'adresse qui est enregistrée au dossier de la carte de crédit. Si on a respecté ces règles-là, généralement, on va être protégé du chargeback. Si on a livré ça à une autre adresse, ben là, on est pas mal exposé parce que c'est clair qu'on a livré un produit et puis on l'a perdu.
Il y a Patrick qui dit printemps dernier, il y avait 6 millions de pétropoints, donc 6 000 $. Il fait beaucoup de distance, c'est le cas de le dire. Il dit tout a disparu tout d'un coup. Finalement, il y a eu enquête. Deux semaines plus tard, ils ont fini par me remettre mes points. Lui, son compte. Ah, un qui s'est fait pirater son compte Netflix. Patrick, merci, ça me rassure, je ne suis pas toute seule. Son compte Netflix a été piraté hier. Il a changé le mot de passe. Et lui, il dit c'est quelqu'un qui se connectait à partir de l'Europe de l'Est. Aïe, aïe, aïe. C'est pas drôle, ça. C'est quoi la nouvelle fraude? C'est sur les comptes Netflix, hein, visiblement, Sylvain Patry?
Ben, c'est pas juste les comptes Netflix, là. Ça va être Disney+, ça peut être Crave maintenant au Canada, ça peut être Amazon Prime Video. Évidemment, vous avez plusieurs maintenant.
Disney, t'as raison. J'ai des gens là, qui m'écrivent par rapport à Disney. Ils sont allés sur le faux compte Disney, puis ils ont payé, puis merci, bye-bye. Mais qu'est-ce que tu fais à pirater un compte Netflix? Là? Oui, ça coûte 16$ par mois. Là.
Oui, le compte Netflix, c'est qu'on le partage la plupart du temps avec des membres de la famille. Dépendant du forfait que vous avez choisi, vous pouvez partager avec 2, 3, 4, 5 membres de votre famille. Alors, vous ne savez pas qui dans votre famille s'est fait hacker essentiellement le mot de passe de votre compte Netflix. C'est ce qui arrive à ce moment-là.
Oui, mais ça leur donne quoi, là, à part économiser le forfait mensuel? Est-ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur notre compte Netflix qui pourraient être sensibles?
Parce que oui, s'ils peuvent aller accéder à un moment donné ou à un autre à vos informations personnelles, ils vont tout simplement essayer avec ça. Et le mot de passe qu'ils ont réussi à prendre, ben, ils vont essayer de voir si vous n'avez pas des abonnements à d'autres sites. Qui pourraient les rendre un peu plus riches. S'ils peuvent vous voler autre chose, ils vont le faire. Ouais. Ils vont compléter un profil, puis ils vont essayer de faire le plus de chemin possible avec votre mot de passe. Et de grâce, ben, il faut changer notre mot de passe d'une application à une autre. Si on prend toujours le même mot de passe, là, c'est pas une bonne idée.
Non, exactement. Ben, écoutez, on va faire vraiment plus attention. Après, le problème, je disais que c'était vraiment beaucoup de temps, puis les auditeurs me le disent, on perd un temps fou avec ça. On n'a pas toujours de réponse, il n'y a pas toujours de suivi, surtout de la part des compagnies. Moi, j'ai hâte de voir la réponse de la carte Optimum, là, parce que ça fait déjà plusieurs jours, pas de nouvelles. Puis maintenant, là, il n'y a plus d'humains qui répondent. C'est juste des espèces de robots, là, dans les chats, souvent sur les sites Internet. Tu vois bien que ce n'est pas une personne qui répond. Là. Donc,
Il y a des nouvelles, Isabelle, il y a des nouvelles technologies là, qui s'en viennent. Vous avez peut-être entendu parler, et c'est très rare en ce moment, mais ça fait la une un petit peu à cause d'Elon Musk, là, le propriétaire de Tesla, etc.,
ouais,
de ce qu'on appelle les NFT. Hein, on appelle ça des non-fungible tokens.
Mm-hmm.
Ça, c'est une technologie qui est basée sur, vous savez, vous avez entendu parler des bitcoins.
Oui, tout à fait,
la,
ben oui.
La cryptocurrency, comme on appelle la monnaie crypto. Alors, les biens maintenant et les identités pourraient être, ouais, digitalisés, et c'est ce que mon collègue disait un petit peu plus tôt,
ouais,
lorsqu'on aura une identité digitalisée, encryptée, pour laquelle il va être pratiquement impossible de voler essentiellement cette identité digitale-là, ça va régler un bon nombre de problèmes. À
ouais,
l'heure actuelle...
Oui, mais nous, on comprend que c'est pas notre force au Québec, là.
Non, pas en tout cas.
Au gouvernement, là, on a de la misère à avoir des... C'est pas parce qu'on n'a pas de spécialistes, là. La preuve, vous êtes là. Mais on dirait qu'au gouvernement, là, c'est compliqué, ça. Ouais.
Ben, juste avec notre dossier médical, à l'heure actuelle, on est... ça fait quoi, trois fois qu'on commence l'application,
ouais,
le dossier unique. Alors, bon... Effectivement, il y a certainement des problèmes à régler.
Merci à tous les deux, Sylvain Patry et Éric Parent. Toujours fascinant de parler de ça. Puis ça nous permet de dire aux gens de, tout, bien sûr, être vigilants, faire attention. Puis Éric, on se souvient bien de ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. Pas hésiter à appeler puis à contre-vérifier. Là. Puis on prend rien pour du cash. Là. Si ça a l'air frauduleux, c'est que ça l'est probablement. Merci à tous les deux.
Bienvenue, bonne journée.
Merci. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Avez-vous hâte d'aller au restaurant? À tout de suite.